la carte.
Mario Dumont est avec nous. Monsieur Dumont, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Ce qui est le fun avec l'histoire de Lionel Pérez, là, c'est que désormais, on peut se fiancer par vidéoconférence. Mmh. Ça coûte bien moins cher pour le père de la mariée.
C'est ça que t'en retiens.
C'est ce que je retiens, moi. Le reste. Puis M. Rosenberg, là, 180 personnes dans l'ouest
de l'île. Ouais, faut quand même faire... ces deux histoires-là sortent à peu près en même temps dans l'actualité, mais je pense, pour être honnête envers les uns et les autres, faut quand même faire une distinction, là.
Mm-hmm.
Lionel Pérez, c'est un peu maladroit. On sent quand même... Écoute, c'est une fiançaille par vidéoconférence avec un musicien qui vient s'installer dans la porte du garage. on a voulu respecter la distanciation sociale. Bon, je comprends que... On est en face quand même de quelque chose d'assez compliqué, là, tu sais.
Mais c'est-tu urgent de se fiancer par vidéoconférence? Qu'est-ce que ça change?
Moi, je suppose que si c'est prévu puis tout ça, les gens trouvent ça extrêmement important. Ou il y a une date, regarde, fouille-moi, là, je peux pas parler pour les autres. Dans le cas de M. Rosenberg...
Mario, c'est une vidéoconférence, le gâteau, là, il n'a pas...
Je sais bien, je sais pas pourquoi. Mais ce que je te dis, c'est que dans le cas de Rosenberg, il n'y a pas de vidéoconférence, c'est un événement, là. On dit qu'on a réduit le nombre des invités pour se conformer aux 250 qui... C'est fou, parce que... Ça, c'est le premier chiffre qu'avait donné François Legault. Mais quand je lisais ça ce matin, tu as l'impression que ça fait des mois, là. Mais c'est il y a deux semaines et demie là, qu'on avait mis le chiffre de 250. Puis après ça, on a dit plus de rassemblement du tout. Mais il dit on a réduit le nombre de 250 à 180. Mais le fait est que leur mariage, c'est devenu ce dont on s'est parlé, toi et moi, plutôt cette un super spreading event, là, super infectateur, un événement multiplicateur... pour le Québec et pour l'État de New York, donc pour la région de Montréal et pour New York, un événement multiplicateur du virus, là où quelques personnes qui l'avaient en ont fait cadeau à des dizaines et des dizaines d'autres qui ensuite sont retournées chacune dans leur milieu et ont rejoué l'effet multiplicateur jusqu'à temps de s'en rendre compte puis là de se mettre en isolement.
Ouais, allez lire ça, c'est dans la presse, Vincent Larouche qui a écrit ça, et vraiment, l'homme d'affaires d'Outremont, Samuel Rosenberg, c'est le prix Nobel du mois. Vraiment, on le félicite.
Mais ça faisait quelques jours là que ce même le premier ministre à un moment donné avait parlé d'un mariage. Là. On savait qu'il y avait une histoire de gros mariage qui avait été... Ici, au Québec, là, on aurait à peu près 3-4 ce qu'on appelle des super spreading events, des événements super infectateurs. Il y a celui-là. On a parlé aussi d'un mariage qui aurait eu lieu dans Lanaudière. Dans ce cas-là, il y aurait eu lieu juste avant les directives de François Legault, au moment où on se rendait pas encore compte. Mmh. Même chose pour un rassemblement familial à Racine, dans l'Est des cantons de l'Est. Donc,
quelques
événements qui nous font réaliser que si on avait continué une semaine de plus à faire des événements, des rassemblements, des fêtes de famille, probablement qu'on aurait le double de cas qu'on a aujourd'hui, peut-être plus. Là.
Mais ce qui est formidable, c'est que Samuel Rosenberg se défend d'avoir mal agi. Il dit non, il n'y a pas eu 250 personnes. Il comprend rien.
Il y avait juste 180.
Mais oui, il comprend ni du cul ni de la tête.
Il y avait 180 puis il y avait du Purel. Ça nous dit que le virus, il est vraiment contagieux, parce que il semble que c'est vrai, même les employés reconnaissent dans ce mariage-là, il y avait du Purel. Fait qu'il y avait de petites mesures de précaution. Alors, ça démontre bien que des petites mesures de précaution, ça donne rien jusqu'à un certain point. Ça prend une prudence totale.
Là. Parce que le 15 mars, là, ça allait mal en Italie, ça allait mal en France.
Oui, on avait des indications. Puis les ordres du gouvernement du Québec étaient clairs.
Ben oui. Fait que on va passer à l'autre appel, qui est celui de Justin Trudeau.
Ouais, qui financièrement, Benoît, joue le tout pour le tout, là. Il faut vraiment aller monter les marges de l'oratoire à genoux pour que ces mesures économiques, là, ça marche. Pour vrai, là, 71 milliards pour le programme d'aide aux entreprises, de support pour que les entreprises gardent leurs employés sur la liste de paye, qu'on les garde à l'emploi.
Pour un grand total, Mario, de...
Ben, ça dépend. Si tu comptes toutes les mesures, on est rendu à 160 milliards. Mais c'est parce que là-dedans, il y a des affaires qui sont des reports. Il faut faire attention. Il y a des reports d'impôts. Mais si on prend juste, moi, ce que j'aime calculer, c'est juste les deux mesures. La mesure aux particuliers, la prestation canadienne d'urgence qui va donner 2 000 $ là, aux gens qui ont plus de revenus. Et l'aide aux entreprises pour garder leurs employés, c'est 95 milliards.
Oui, qui nous envoie la facture comme le reste.
C'est-à-dire que si ça devient un sauvetage de l'économie, puis qu'au cours des 4-5 prochaines années, on s'en remet dans l'économie, puis qu'on réussit à payer ce déficit-là, là, au moins, on dira que ça a été un...
avec des milliards.
C'était un coup de bélier intelligent du gouvernement pour sauver une situation. Mais si ça marche pas, puis que l'économie est pas sauvée par ça, puis qu'on se retrouve avec les dettes qu'on va payer je sais pas quand, je sais pas comment...
Moi, ce qui me fait peur, Mario, là-dedans, là, c'est que Justin Trudeau se comporte dans cette pandémie, j'espère que j'ai tort, mais comme il l'a fait dans la crise ferroviaire, tu sais, on va donner 1 milliard, le problème est réglé. On a-tu un problème? On va mettre 500 millions.
Ouais, je comprends ce que tu dis.
De jeter de l'argent au problème, oui. Si t'as pas de plan de match précis, ça risque de foirer.
Je comprends ce que tu dis, c'est qu'un plan énorme sur le plan financier serait plus rassurant si nous provenait d'un gouvernement qui nous habitue à faire attention. On dirait, c'est pas des gens qui habituellement dépensent l'argent à tort et à travers, mais là, ils ont pas le choix, ils posent un geste spectaculaire. Là, le gouvernement pose un geste spectaculaire, mais on a tous derrière la tête, oui, mais c'est un gouvernement qui a toujours tendance à trop dépenser. Ceci étant dit, tu parles aux experts, ils disent tous, on n'a pas le choix, il faut un remède de cheval, on peut pas laisser l'économie couler, ça va être tellement épouvantable. Donc, on a maintenant tous les détails de ces deux programmes, en tout cas les détails importants à comprendre. On comprend aussi que, ça faut que les gens se le mettent dans la tête, là. Le même individu, le même employé pourra pas manger dans deux assiettes. C'est-à-dire que tu ne pourras pas... Si tu as commencé les démarches, là, pour aller chercher ta PCU, ta prestation canadienne d'urgence, ton 2 000 $, puis que tu es déjà allé sur le site de l'ARC, puis que ce matin à 9 h, le téléphone sonne, puis que c'est le VP ressources humaines de ton entreprise qui t'appelle pour te dire « On rembauche tout le monde, on te reprend, puis tu travailles pas nécessairement, tu restes chez vous, mais on te remet sur la liste de paye parce que, comme le gouvernement va payer 75% de notre masse salariale, on est prêt à payer l'autre 25%, puis on va garder notre monde sur la liste de paye jusqu'à temps, en espérant reprendre nos activités, je sais pas, mais fin avril, début mai, puis tout ça. » Mettons que ça t'arrive, mais là, poursuis pas tes démarches, là. Annule tes démarches au PCU, là. Tu comprends?
Ne le fais pas.
Le PCU s'adresse aux gens qui ne reçoivent pas de paye. Et le but du ministre Morneau, il y a des vases communicants. Le but du ministre Morneau, c'est de faire baisser le nombre de gens qui vont recevoir le PCU, qui vont recevoir le 2 000 $, en souhaitant que les entreprises qui ont fait des mises à pied rappellent leurs gens, là, qu'un maximum... On sait qu'ils le feront pas toutes, là. Par exemple, les entreprises dans le domaine du voyage puis tout ça, qui voient pas le jour où ils vont recommencer à fonctionner, qui ont plus de revenus du tout, elles, je pense pas qu'elles vont réembaucher. Mais une entreprise manufacturière qui pense pouvoir reprendre quand même rapidement ses opérations après la crise, peut-être dans quelques semaines, quand le pic va être passé puis que le nombre de cas va diminuer, etc., pourrait souhaiter dire, regarde, là, on laissera pas tomber notre monde, on va garder nos employés, ils vont nous être reconnaissants pendant longtemps, en plus, ils vont être prêts à travailler le lundi matin du rappel, tout le monde va être prêt à travailler. Donc, des entreprises qui ont des bonnes profitabilités, donc qui avaient un peu les reins solides, vont dire, regarde, l'année 2020, on met un X dessus, on fera pas d'argent, mais on aura passé à travers. Donc, le ministre Morneau espère que ces entreprises-là vont poser le geste, peut-être socialement et peut-être même économiquement, le geste le plus intelligent et annuler leur mise à pied, rappeler leur monde, d'autant plus que c'est rétroactif au 15 mars. Le programme est rétroactif au 15 mars, donc rappeler leur monde. Et donc que ces gens-là, donc peut-être des milliers et des milliers, des centaines de milliers de personnes, ne seront plus des demandeurs au PCU. Ils ne coûtent pas moins cher au gouvernement, là. Ben, subventionner les 3/4 de leur paye habituelle, ça coûte probablement plus cher au total, sauf que là, comme ils vont avoir une paye, ils ont des déductions à la source, ça fait qu'il y a de l'argent qui revient au fédéral.
Oui, puis personne ne se retrouve dans la rue, là, c'est important.
Personne
ne
se retrouve dans la rue, donc je pense que c'est le souhait du gouvernement fédéral, là, d'éviter... Oui. La prestation canadienne d'urgence, ça reste qu'elle porte son nom, là. C'est une prestation d'urgence, là. C'est un 2 000 qui t'est envoyé en sauvetage, juste pour 4 mois, donc c'est pas la panacée, là.
Je t'invite à lire l'article de Catherine Lévesque de la presse canadienne publié dans l'actualité, Mario, parce que ça commence en disant « Alors que des centaines de milliers de Canadiens ont besoin d'une aide financière urgente en raison de la pandémie de COVID-19, ils continueront de payer des taux d'intérêt élevés sur leur carte de crédit. » Et plus loin dans le texte, on dit que le premier ministre...
Monsieur Trudeau a de la pression, là.
Oui, c'est ça. Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que son gouvernement travaillait toujours avec les banques pour les encourager dans cette voie-là. Il n'y a pas de pression, Mario, pour les encourager. S'il vous plaît, je suis à genoux. Pouvez-vous considérer... Et Mathieu Labrèche, qui est de l'Association des banquiers canadiens, s'en contrefiche. Il nous répond des sottises dans cet article-là.
D'abord, D'abord, je te noterai que dans ce que tu viens de me lire, ça dit que M. Trudeau travaille.
C'est vrai. Je suis obligé de dire, oui, d'accord, il travaille fort.
Il travaille fort. Donc, là, il travaille très fort. Mais je veux juste te dire que tous les autres notions de travail ont perdu de leur valeur depuis la journée qu'il nous a dit que son gouvernement travaillait jour et nuit. Sauf que ce jour-là, il s'est mis à risque, il a levé la barre tellement haute que toutes les autres fois où il travaille, on se dit bof, là, tu sais.
Comment peux-tu travailler plus fort que travailler jour et nuit?
Voilà. Ceci étant dit, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de pression, en fait. Les banques, je sais pas s'ils ont de la pression ou s'ils la ressentent.
Mais M.
Trudeau en a une. Benoît.
Ils en ont pas, Mario.
Non, mais t'es premier ministre du Canada. Ouais. Quand tu dis que tu souhaites que les taux d'intérêt sur les cartes de crédit baissent,
pis ça bouge
même
pas.
Je sais que ça bouge pas, là.
Mario, il l'a dit. Puis les banques disent, veux-tu te mêler de tes affaires?
Ouais, mais moi, ce que je te dis, c'est que le sujet va revenir dans l'actualité toutes les semaines. Là.
Donc,
la pression reste sur le système.
C'est ce que je fais.
C'est ce que tu fais, je le comprends bien, puis tu as raison de le faire. Est-ce que ça va bouger, est-ce que ça bougera pas, je peux pas te répondre. Mais tu peux pas me dire qu'il y a pas de pression. Là. Le premier ministre est devant le journaliste du pays. À toutes les deux, trois jours, on y ramène la question des taux d'intérêt.
Avec un air
de plus en plus ennuyé, il dit oui, on travaille là-dessus. Pense que par en arrière, là, il y a du monde, le ministre des Finances, il y a du monde au ministère des Finances qui parle aux gens des banques, là, puis qui disent, là, vous commencez à nous faire suer, puis le premier ministre commence... Tu sais, il y a un bout qu'on voit pas. Je vais te donner l'exemple que... Tu sais, mettons, à la période des questions à l'Assemblée nationale, là, t'écoutes un ministre répondre, t'as l'impression qu'il patine. Il se fait pogner les culottes à terre sur le fait que dans son ministère, il y a quelque chose qui marche pas en tout, puis que les divisions régionales donnent pas un service, puis en chambre, il se lève, il reste stoïque, il reste fort, puis il répond, puis il plante l'opposition sur d'autres choses qu'ils ont faites dans leur temps, puis tout ça. Fait que toi, tu pourrais te dire, il s'est rien passé. La vérité, là, c'est que le ministre a tenu le fort pendant les 3 minutes où la question se posait à la période des questions. Quand il rembarque dans son char, là, comment il prend le téléphone, puis il appelle son sous-ministre, puis il appelle les fonctionnaires, puis peut-être qu'il sac à coup de toute la vaisselle de l'église en disant « C'est quoi cette affaire-là que les services sont pas donnés en région? » Même si le ministre s'est pas effondré en pleurant en chambre, la question a quand même eu son effet, là, dans le sens qu'il se dit...
Mon exemple, c'est que
les banques, là, même si...
Non, attends. Ton exemple s'adresse au sous-ministre, qui est un subalterne du ministre. Là, le ministre s'adresse aux banques qui ont fait 50 milliards. En 2019. Il s'en contre-fiche, pour ne pas dire autrement.
Ouais, non, mais le ministre des Finances a un certain nombre de leviers sur les banques, contrôle toute la réglementation.
On le voit pas.
Si le ministre des Finances décide de faire suer les banques, il peut pas l'envoyer promener comme ça. Donc, moi, je pense...
Mario, il fait pas. De toute évidence, il fait pas. Ça fait des semaines que ça dure. Tu sais, dès le début, les banques, si ça avait pas été des voyous ou des salopes, ils auraient proposé quelque chose aux citoyens. Là, il propose de repousser...
Je ne défends pas les banques. Je te dis qu'il y a une pression sur le premier ministre qui va finir par se transposer sur les banques pour faire quelque chose avec ça.
J'ai hâte de voir ça.
Ça, j'en suis sûr.
Donne-moi un délai.
Peut-être qu'ils feront rien. Là. Je défends pas les banques.
Je sais bien.
Les taux d'intérêt sur les banques, sur les cartes de crédit, pardon, sont un scandale bancaire en soi, là. Ben, je veux dire, plus maintenant parce que le monde est plus mal pris, mais
plus jamais.
Ça l'était avant, là.
Ça l'a toujours été, mais là, plus jamais. Là,
quand tu as le taux d'intérêt, quand les banques empruntent à la Banque du Canada puis que le taux préférentiel est à 0,25%,
qu'ils
se retournent sur ses cartes de crédit, ils reprêtent à 19 ou 20, Benoît, posez la question, c'est y répondre. Puis quand le taux de la Banque du Canada baisse...
Si on dit que c'est du Sherlocking, je peux me faire poursuivre, hein?
Je sais pas. Je pense que
je le dis pas d'abord.
Est-ce
qu'il faut fermer les parcs à Montréal? Est-ce qu'il faut mettre le pied à terre?
Moi, je vais te dire une chose. J'entends beaucoup ça, fermer les parcs. Et moi, je suis très d'accord avec la mairesse Plante sur une chose. Il y a beaucoup, beaucoup de gens à Montréal qui vivent avec des enfants dans des petits espaces clos. Ils ont pas de cour, juste un petit balcon, etc. Et je trouverais ça épouvantable. Moi, là, je pense, écoute, je me promène un petit peu à Montréal en auto. Là, je viens à TVA, je vais à Cube. Il n'y en a plus de vie à Montréal. Là. Tout est arrêté. Il reste des récalcitrants, mais à mon avis, ils sont là. Pour vrai, là, 2, 3, 4 % de la population. Ils nous écœurent parce qu'ils défont l'effort des autres. C'est comme si toi, tu tricotes un foulard, puis il y a quelqu'un qui tire sur le fil en dessous puis qui le détricote à mesure, puis ça fait suer. Mais donnons des amendes à ces gens-là. C'est-à-dire que je vois pas pourquoi on priverait ou on pénaliserait l'ensemble de ceux qui sont respectueux des règles, mais qui voudraient amener leur enfant à jouer dans un espace vert. Je sais pas pourquoi on pénaliserait des centaines de milliers de personnes pour quelques milliers qui comprennent pas.
OK, pour arriver à ça, Mario, ça prendrait une présence policière un peu plus accrue.
Ben oui. pendant quelques jours, on surveille ça. Là, puis je veux dire, dans les parcs, là, c'est toujours les mêmes petites gangs, les mêmes rassemblements. D'après moi, quand il y a quelqu'un qui va en avoir eu des contraventions de quelques cent piastres, ça va savoir. Le message, ils écoutent pas les nouvelles, ils écoutent pas les médias, ils sont pas au courant des ordres du gouvernement. Mais d'après moi, dans la rue, là, ce message-là, il va se passer de comment ça coûte de faire le zouave d'un parc. Ouais. Mais je comprends mais si la mairesse de pas vouloir priver l'ensemble de sa population de quelque chose d'aussi important dans une ville densément peuplée, avec des tours d'habitation de 20, 30, 40 étages.
Des condos partout.
Des condos, puis tout ça. De pas vouloir priver tout le monde des seuls espaces qu'on a au nom d'une poignée de quelques gangs de nonos, là.
OK, mais ça, d'abord, Sylvain Caron m'a dit qu'il allait intervenir, puis qu'il allait prendre des appels, puis...
ils ont redit la chose hier, la ville a redit ça, puis qu'il y aurait des amendes. Ben, allez-y, go!
Et est-ce qu'on devrait tous avoir des masques dans ces conditions-là pour aller se promener? Parce que là, la Corée du Sud se donne en exemple. Partout, on se donne en exemple, puis les gens disent, sortez, mettez-vous un masque, ça va réduire les risques.
Regarde, les questions de masque, là, c'est débattu sur toute la planète présentement.
Ouais.
Mais je suis obligé de te dire, tout en respectant les consignes de nos autorités ici, je suis obligé de te dire que si tu regardes les courbes, les pays qui sont obsédés par le port du masque, tu vas me dire qu'ils sont tous en Asie, regarde l'efficacité avec laquelle ils ont contrôlé Hong Kong, Taïwan, l'efficacité avec laquelle ils ont contrôlé la pandémie. Mais je sais que la Corée du Sud, t'as raison. Mais les experts vont te dire, ce sont aussi des populations, au-delà du masque, le masque est un des éléments de leur vie, ce sont des populations ultra obsédés par toutes les formes d'hygiène, tu sais, qui font très, très, très attention à tout, qui sont très disciplinés, qui respectent les consignes du gouvernement en matière d'hygiène. Et oui, ils portent le masque. Donc, est-ce que leur bonne gestion de la pandémie est liée strictement au masque ou à d'autres pratiques? Ou est-ce que le masque a quand même aidé? Moi, je vais t'avouer que, d'abord, ici, on a tout expliqué le masque à l'envers au monde. Au début, les gens pensaient qu'on portait le masque pour se protéger. Le port du masque est un geste, pour ceux qui le portent en Asie, c'est un geste de courtoisie. C'est pas que tu te protèges des autres, c'est que tu te dis, moi, au cas où je serais malade, ne le sachant pas, étant pas encore, les symptômes sont pas encore sortis, mais je suis déjà malade, je ne veux pas infecter mon entourage. Le masque doit être vu comme un geste de courtoisie, parce que toi, tu vas l'attraper pareil. Là. Le masque est pas assez étanche. Là. Si tu es en présence de quelqu'un qui te tousse d'en face, là, tu vas l'avoir la COVID. Par contre, si toi tu prends une marche, il me semble, ça me paraît évident que ta respiration puis la vapeur de ta respiration puis tes postillons vont rester enfermés peut-être pas à 100%, mais s'ils restent enfermés à 99% plus.
Donc, pourquoi pas se donner une chance,
ça? Mais là, pour l'instant, c'est une discussion théorique, on n'a pas de masque. Là. Moi, qu'on sorte nos foulards, qu'on se fasse des masques avec ce qu'on a dans la maison de bout de tissu qui reste, puis un élastique de...
Mario,
j'ai
Nathalie Doucet, qui est la présidente de l'Association québécoise d'infirmières et infirmiers, qui est avec nous tantôt, là, dans quelques secondes. Puis il y a des masques ailleurs, puis elle va nous dire où il y en a, puis comment on pourrait les utiliser et comment on peut les obtenir. Je vais lui parler dans un instant. Entre-temps, je te remercie. Je te dis, on t'écoute cet après-midi, puis on se reparle demain.
Bye.
Merci.